Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire et magazine, la violence accrue dans les manifs des Gilets jaunes.
Oui, cette violence en hausse a en effet marqué le 13e samedi consécutif de manifestation des Gilets jaunes hier en France. Si leur mobilisation était en recul, de violents heurts ont en effet émaillé la journée, tels que les affrontements qui ont opposé manifestants des droites et gauches extrêmes dans la ville de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Plus grave, devant l'Assemblée nationale à Paris, un manifestant qui prenait des photos a eu la main arrachée par l'explosion d'une grenade lancée par les forces de l'ordre. Sans omettre, avant même ce nouveau samedi des Gilets jaunes, la tentative d'incendie criminel de la résidence du président de l'Assemblée nationale en Bretagne, dans l'ouest de la France. Dans un entretien au journal du dimanche, Richard Ferrand se dit choqué et inquiet, soulignant le caractère inédit selon lui de cette violence sous la Ve République, avant d'estimer que la limite a été franchie.
Et une fois encore, Norbert, la question des armes non létales utilisées par les forces de l'ordre est posée cette semaine.
Et le débat s'envenime. Malgré un nombre important de blessés depuis le 17 novembre, le gouvernement n'envisage aucun encadrement plus strict de l'usage de la force par la police et récuse toute interdiction des lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement, énonce ainsi l'hebdomadaire Politis. Dans la presse étrangère aussi, cet usage et ces armes non létales employées par les forces de l'ordre en France ne manquent pas d'étonner. L'hebdomadaire Courrier International relève ainsi ce titre choc du journal allemand Die Welt, remettant en cause le caractère non létal des dites armes, je cite, « les armes mortelles de la police française ». Courrier International relève aussi cet autre article relevé dans Die Zeit, autre journal allemand, et dans lequel on peut lire ceci. La France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser des grenades au gaz lacrymogène GLIF4 à coque dure lors de manifestations, ajoutant que même les très controversées balles en caoutchouc dur des lanceurs de balles de défense 40 ne sont utilisées que dans deux autres pays européens, en Pologne et en Espagne, à des fins de démonstration. Pour expliquer cet usage, Disa a écrit que le président Macron fait peu pour enrayer le phénomène. Il ne peut pas se permettre de se mettre à dos la police, rapporte Courrier International.
Alors, comment sortir de cette crise des Gilets jaunes? La semaine dernière, ici même, vous évoquiez le référendum de Macron, mais ce matin, cette idée semble avoir déjà du plomb dans l'aile.
Oui, dans l'entretien qu'il a accordé au journal du dimanche, Richard Ferrand invite à ne pas agiter cette idée de référendum comme un fétiche, déclarant qu'il s'agit d'une option parmi de nombreux autres.
Alors justement, Norbert, si une élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, sur quel résultat pourrait-elle aboutir?
C'est l'hebdomadaire Marianne qui a posé la question et c'est l'Institut de sondage IFOP qui y a répondu. Le résultat, c'est l'électrochoc, lance en une ce magazine. Si donc le premier tour de l'élection présidentielle était organisé ce dimanche, Emmanuel Macron obtiendrait 30% d'intention de vote, 6 points de plus qu'en 2017. Il serait suivi par Marine Le Pen, 27%. Les autres sont loin derrière. Jean-Luc Mélenchon, 12%, rendrait plus de 7 points par rapport à la dernière présidentielle et sortirait laminé de cette crise des Gilets jaunes. S'effare Marianne. Les citoyens se partagent de plus en plus entre ceux qui, par peur du chaos, se rallient à un président qui n'a fait qu'étaler ses limites et ceux qui, sans forcément adhérer au projet de ce parti, ont retrouvé dans le vote Rassemblement National cette fonction de vote protestataire qu'on disait avoir été remplacé par un vote d'adhésion.
Voilà donc pour un premier tour et au second.
Selon ce sondage IFOP pour Marianne, au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait par 56% des voix contre 44% pour Marine Le Pen, étant rappelé qu'en 2017, le premier avait battu la seconde avec 66% des suffrages exprimés contre 33%. Comme le souligne cet hebdomadaire, l'écart se réduit dangereusement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au second tour, le président de la République perdrait 10 points. En 20 mois, ça n'est pas rien, en effet. Mais il y a pire encore pour Marianne, car c'est là le vrai coup de tonnerre. Au second tour, près d'un Français sur cinq préférerait voter blanc que choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Conclusion de ce journal, la stratégie du président est un jeu profondément dangereux.
Et d'autant que, comme on l'a vu, Norbert, Jean-Luc Mélenchon, qui s'effondre dans les sondages, est encore épinglé à la une cette semaine sous les traits de Robespierre.
Après l'avoir été à la une du journal du dimanche, le voilà hissé à celle de l'Obs, qui a détourné pour l'occasion un célèbre portrait de l'incorruptible en le retouchant à peine, aucune équivoque possible. L'homme qui regarde le lecteur de cet hebdomadaire sous sa perruque poudrée a chaussé ses lunettes. C'est bien le chef de la France insoumise. Alors pourquoi cette couverture de magazine qui a fait sensation cette semaine dans les kiosques? Obsédé par la Révolution française, le chef des Insoumis rêve de renversement de la monarchie républicaine et multiplie les analogies historiques, explique Lopes. Il s'identifie plus que jamais à son héros Robespierre, à l'instar de son maître. Mélenchon se pose en incarnation suprême de ce peuple en révolte.
Ouais, lequel peuple lui rend donc mal ses intentions.
Dans les sondages, la cote de Mélenchon plonge. Le partisan du dégagisme est déjà dégagé, formule Lopes d'une très littéraire allitération. L'homme qui se rêve en Robespierre est pourtant sincèrement exalté par ce mouvement horizontal, apartisan, qui refuse tout leader et dans lequel il se retrouve jusqu'à ses propres slogans. La hausse du salaire minimum, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'Assemblée constituante, remarque encore ce magazine en expliquant cette stratégie qui consiste à fédérer le peuple contre l'oligarchie, les 99% contre les 1%, un « nous » contre un « eux ». Elle acte la fin du clivage droite-gauche qui structure la vie politique française depuis 1789.
Merci Norbert Navarro. À tout à l'heure pour la Une de Jeune Afrique.
À tout à l'heure.